Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée ce matin par Anthony Paradis. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, eh bien j'ai le grand plaisir d'accueillir dans cette première heure en direct et sur le plateau Olivier et Ariette, que les fidèles quand même de Liberté sur Parole doivent commencer à connaître puisqu'on les a retrouvés de nombreuses fois sur cette antenne en direct d'un peu partout à l'Est, eh bien ils sont revenus, enfin ils sont de passage avec leur sac à dos là à Paris, on ne sait pas où ils vont après, mais en tout cas ils y vont, ils n'arrêtent pas de bouger, donc on va voir avec eux, on va faire un petit peu le bilan de ce voyage avec eux dans cette première heure d'émission, donc on va écouter beaucoup de musique, ils vont nous raconter beaucoup d'histoires aussi, et puis leurs impressions à ces deux personnes qui reviennent de loin, et qui reviennent aussi peut-être à plus qu'ils ne sont partis, ça c'est une surprise. Ça, ce sera pour jusqu'à 9h. Et à partir de 9h, j'aurai le plaisir d'accueillir Stéphane Mercurio, qui est réalisatrice, entre autres, de ce très bon film qui s'appelle À côté et qui sort en DVD actuellement. À côté, c'est un film qui retrace l'histoire, enfin, le quotidien de femmes, d'hommes, de familles, de personnes incarcérées qui tentent d'aller voir leurs prisonniers et qui vivent à côté d'eux et donc à côté de la prison. Stéphane s'est installé pendant de longues semaines, pour pas dire des années, autour des prisons et a interviewé de manière sobre, digne et fine à sa manière toutes ces femmes et tous ces hommes aussi qui se rapprochent au mieux des gens qui sont en train de purger une peine. On aura également au téléphone Chantal Courtois qui, elle, a été mariée pendant plus de 40 ans et pendant ses 40 ans de mariage, elle a passé plus de 30 ans en tant que femme de parloir puisque son mari, Georges Courtois, a été incarcéré. Elle nous parlera de tout ça. Je ne sais pas si Georges est actuellement libre ou en prison. On verra ça avec elle, elle nous dira. Et c'est absolument intéressant, voilà. On en parle ça entre 9h et 10h, mais tout de suite, bonjour Ariette et bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment ça va ?
Ça va bien, on est de retour de voyage, donc avec plein d'énergie, mais un peu fatigué quand même.
Comme je vous comprends, moi qui ne voyage pas, je suis aussi fatiguée en ce lundi matin. Alors, c'est vous qui avez tout prévu, hein. Vous avez fait tout le boulot ce matin, je le dis pour les auditeurs, je n'y suis pour rien. Donc on va commencer par parler avec vous, on va quand même rappeler un petit peu ce qu'était ce projet En route vers l'Est. Alors qui se lance ?
D'accord, je vais commencer. Alors donc nous avons eu le désir fin 2008 de rompre un peu avec notre vie parisienne, une vie assez rythmée. Et donc nous avons émis le projet de déménager, de quitter Paris et d'aller vivre dans le sud-ouest de la France. Mais avant de faire cela, nous avions envie de faire un beau break, un gros break. Et donc l'idée est venue de faire un voyage, et un voyage plutôt sur le long cours, enfin en tout cas sur le moyen cours, puisque nous sommes partis 4 mois, et de faire un voyage qui sorte un petit peu de l'ordinaire en quelque sorte. Donc on y a pensé très progressivement, et puis donc nous avions acheté la même année un camion aménagé qui nous permet de voyager de manière tout à fait autonome. Et en y réfléchissant, on s'est dit que si on voyageait en camion aménagé, il fallait trouver un moyen de rentrer en contact avec la population. Puisque voyageant en camion aménagé, on peut être facilement coupé des gens, puisque le camion permet de dormir, de manger, de tout faire, quoi. Donc il y avait quand même le risque d'être un peu coupé de la population, et c'est pas du tout ce qu'on voulait. Donc voilà. Quant à la destination, pour nous, c'était assez naturellement, l'idée est venue d'aller en Europe de l'Est. Puisqu'en fait, on s'est dit qu'on avait déjà été tous les deux en Asie, en Afrique, en Amérique latine, enfin en Amérique, et dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Donc l'idée, c'était de connaître un petit peu plus l'Europe de l'Est, qu'on ne connaissait pas du tout ni l'un ni l'autre.
Et en plus, en camion, c'était accessible, c'est ça aussi qui était
voilà.
Intéressant.
En plus, il y avait aussi la relative accessibilité, enfin la distance pas trop éloignée, et puis l'accessibilité par la terre. Donc sans prendre de bateau ni quoi ni caisse, donc voilà, c'était relativement aisé. Et l'Europe de l'Est aussi, parce que avec tous ces nouveaux pays en train d'être intégrés à la communauté européenne, ça donne un peu le tournis. Et nous, on était un petit peu un petit peu perdu dans tout ça, en fait, avec l'Europe des 8, des 15, des 18, des 25, je ne sais même plus. On est 25 maintenant, je crois.
Oui, oui, c'est ça.
Donc, voilà. Ensuite, l'idée, c'était aussi, donc de connaître nos voisins fraîchement intégrés, ou ceux qui étaient intégrés depuis un peu plus longtemps, ou ceux qui sont en voie d'être intégrés. Certains sont en négociation, comme la Turquie. Bon, là, c'est plus tout à fait l'Europe de l'Est, mais notre voyage s'étend jusqu'à la Turquie. Certains ne sont même pas encore en négociation et sont encore assez loin de l'intégration, mais sont quand même voués à plus ou moins long terme à être intégrés. Je pense notamment aux Balkans occidentaux, hein, la Serbie, la Bosnie, etc., la Croatie, la Slovénie. Ce sont des pays qui sont quand même en plein cœur de l'Europe, donc qui sont voués un jour ou un autre à être intégrés. Hein. Là, le doute ne se pose même pas, contrairement à la Turquie, où c'est peut-être un peu moins évident.
A-t-on besoin de cette intégration pour faire partie de l'Europe? Bon, tout ça, peut-être que ces pays-là étaient l'Europe bien avant qu'on l'invente.
Tout à fait.
Fallait savoir.
Voilà. La Première Guerre mondiale a quand même débuté par un assassinat à Sarajevo. Donc, voilà.
Puis le Danube a longtemps été un axe commercial, économique aussi, qui focalisait un petit peu. C'est une autre Europe, mais c'était ça l'Europe aussi.
Tout à fait, oui.
Mais bon, voilà, donc c'était aussi le but de faire un peu de géopolitique pour vous, enfin, voilà, en tout cas, d'expérimenter. Et alors, pourquoi la musique, spécialement?
Alors, donc, la musique, parce que, en fait, quand on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen de rentrer en contact avec la population, comme je disais tout à l'heure, la seule chose, en fait, qui nous est venue à l'esprit, c'était ça, c'est venu très naturellement. Donc, on est tous les deux mélomanes et musiciens amateurs, pratiquants amateurs. Donc c'est venu en fait voilà le plus naturellement possible. On s'est dit il faut faire quelque chose avec la musique. Donc moi je suis passionné de musique depuis assez longtemps. Je fais un petit peu de prise de son comme ça, tout à fait en amateur. Et donc on s'est dit pourquoi pas aller enregistrer des musiciens. Mm-hmm. On a pensé que c'était un bon moyen de rentrer en communication avec les gens. C'était un bon moyen de faire des rencontres, un bon moyen de rencontrer l'autre. Et je dois dire qu'on s'est pas trompé sur ce point.
D'accord.
On était plus que comblés.
Et bien donc, on va parler justement des rencontres que vous avez faites. Mais d'abord, la première question, c'est comment on fait pour rencontrer des musiciens? Vous êtes partis avec très peu de contacts, je crois, si je me souviens bien.
Exactement. Nous sommes partis avec un seul contact préalable en Roumanie. Donc, voilà. Et en fait, bon, j'avais deux amis, un ami en Allemagne et un ami en République tchèque. Mais voilà, sinon, un seul contact de musicien averti, on va dire. Donc tout le reste s'est fait par le hasard en grande partie. Il faut dire que c'est quand même beaucoup le hasard qui fait les choses. Les choses se font tout simplement, en fait, tout naturellement.
Vous vous baladiez dans la rue et puis vous tendiez l'oreille, vous allez dans les cafés,
exactement,
vous regardez les affiches.
Voilà.
Comme on fait quand on est un peu touriste et puis bon, si on creuse un peu, on trouve.
En fait, je pense que c'est avant tout une attitude à adopter plus qu'une technique ou plus qu'une méthode. Je pense que c'est avant tout une attitude de curiosité et d'ouverture et d'écoute. Comme vous disiez à l'instant, c'est tendre l'oreille. Par exemple, c'est des choses toutes simples comme ça. Je pense par exemple à un mariage où on a assisté en Roumanie, à Cluj-Napoca, donc une assez grande ville de Roumanie. On se baladait dans la ville en quête de musique, comme toujours, et puis tout d'un coup, on entend une petite musique qui vient de loin, donc nous entrons dans une cour, et puis nous voyons que c'est un mariage. Donc nous commençons à prendre le chemin inverse, on ne voulait pas non plus s'incruster, et puis le marié vient nous voir et nous invite, et nous prend par la main, et nous invite dans la salle, et nous sert à manger, à boire, et enfin bon, voilà, ça a commencé comme ça. Et voilà, c'est un exemple, mais il faut être avant tout très, très curieux et très, très à l'écoute. Et puis oui, après, ce sont des affiches qu'on peut voir dans la rue, un petit concert dans un café. Nous, on avait aussi ce réflexe de demander un petit peu à tout le monde, est-ce que vous-même, vous pratiquez d'un instrument? Est-ce que vous connaissez des gens qui jouent? Et puis de fil en aiguille, les gens nous donnent des contacts, et puis de fil en aiguille, on finit par trouver des musiciens.
Alors le premier qu'on va écouter, là, c'est Min. Vous l'avez rencontré où et qui est-ce?
Alors Min, c'est un ami. Donc c'est, en fait, j'ai voulu le mettre un peu à l'honneur puisque c'était quand même notre premier musicien. Donc c'est un ami que je connaissais depuis un certain nombre d'années. C'est un jésuite qui a beaucoup voyagé puisque en tant que jésuite, il a vécu, travaillé et œuvré dans de nombreux pays. Et il est lui-même grand mélomane et assez bon chanteur. Donc voilà, il chante en latin, il chante en allemand, il chante en grec, il chante en je ne sais plus combien de langues. Donc là, il nous a fait l'honneur de nous faire un chant en latin.
Eh bien, on va l'écouter. Voilà, donc c'était un petit extrait qu'on trouve, alors très très important, dire que toutes ces musiques qu'on va entendre ce matin et toutes les anecdotes que vous n'entendrez pas ce matin, vous pouvez les retrouver sur le blog En route vers l'Est. Alors, je l'ai sur mon ordinateur, je vais vous dire exactement l'adresse. C'est http://enroutevers-l'est.over-blog.com. Puis maintenant, si vous tapez En route vers l'Est entre guillemets sur un moteur de recherche, eh bien, vous tombez directement dessus. Voilà. Et donc là, il est à jour. C'est combien de temps de voyage déjà ? En tout ?
4 mois. C'était du 19 août jusqu'au 15 décembre.
D'accord. Et donc, on a écouté là, un musicien qui était allemand. Vous avez commencé par l'Allemagne, c'est ça ?
Oui. On a traversé la Suisse afin de... Parce qu'on était dans le sud de la France. Donc, on a traversé la Suisse. Et, mais le premier endroit où on s'est arrêté pour commencer à la recherche de musiciens, c'est à Francfort, en Allemagne. Ouais. Donc, Mine, on a enregistré là-bas.
D'accord, d'accord. Il y a un autre nom que je vois sur ma liste juste après. C'était à Bratislava cette fois. C'est deux noms d'ailleurs. C'est Michal et Juraj. Juraj.
Oui, Juraj. Alors ce sont deux jeunes parce que en arrivant à Bratislava, donc c'était de nouveau se plonger dans l'inconnu et on a en marchant dans la ville, on avait, je pense. On n'a pas entendu de la musique. On a vu dans un cours pas mal de gens. Donc, on est entré pour voir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, c'était un vernissage des sculpteurs et peintres. Et donc tout le monde, c'était accès libre. Et une fois à l'intérieur, on a vu qu'il y a deux jeunes, je dirais, entre 16 et 20 ans, qui jouaient la guitare. Et donc, on les a abordés pour demander si on pouvait les enregistrer. Et donc, ça, c'était tout à fait possible. Et du coup, on a pu les enregistrer. Ils étaient très enthousiasmés avec l'idée. Ils parlaient bien anglais, donc on pouvait bien expliquer notre démarche. Et comme c'était des jeunes, ils étaient très un peu intimidés par notre matériel qu'on sortait pour les enregistrer, mais surtout ils étaient très enthousiasmés pour partager leur musique avec nous. C'était des reprises qu'ils avaient fait, je pense, mais tout à fait d'une bonne qualité, qualité musicale.
Alors on ne va pas l'entendre ce matin parce que j'ai pas non, le son, mais on peut bien sûr les trouver sur le site. Hein.
Exactement.
Voilà. Donc ça c'était à Bratislava. On va maintenant en Roumanie peut-être parce que là on va écouter un peu de son après.
Oui, alors la raison pourquoi on avait mis cette famille en Roumanie, c'était aussi pour montrer que c'était donc la seule famille de laquelle on avait le contact auparavant. On avait rencontré un Roumain à Paris avant de partir. Et ce Roumain nous avait parlé d'un village où il y a plein de musiciens qui habitent. Bon, nous, il nous a décrit le village comme village de musiciens. Et donc, il nous avait donné le nom de la famille, le nom du village, et il avait mis sur un petit papier, en roumain, notre démarche. pour pouvoir aussi communiquer au cas où personne parlait autre langue que le roumain. Donc, effectivement, c'était dans l'extrême est de la Roumanie, presque la Moldavie. C'était la région moldave en Roumanie. Et en arrivant dans le village, on avait demandé pour la famille Pantirou. Et effectivement, c'était pas compliqué pour trouver leur maison. Avec ce petit mot, ça nous a ouvert les portes. Ils nous ont ouvert la porte de leur maison grandement. Et on se trouvait effectivement dans une famille où plusieurs générations jouent le saxophone. Ils ont un fanfare eux-mêmes qui compose de 10 personnes, 10 musiciens. C'est une famille qui a eu un contrat assez important avec le théâtre de Zingaro oui. dans le passé. Donc ils nous ont raconté comment ils ont un peu voyagé pas mal d'endroits en Europe, mais aussi en Asie, et si je ne me trompe pas, aux États-Unis, où ils avaient joué pendant 3 ans avec ce groupe de théâtre, et que pour eux, c'était une expérience très riche.
Les Zingaro, c'est français, ils sont venus en France aussi?
Oui, ils sont venus en France aussi, et en parlant avec eux, on pense que la seule fois qu'on avait assisté au spectacle de Zingaro, c'était peut-être eux qui faisaient la musique.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils pensent de la France? Parce que vous arriviez chez eux, et eux, ils avaient peut-être des souvenirs de France. Qu'est-ce que ça leur rappelait?
Alors, donc déjà, c'était des gens qui parlaient le français, donc notre petit mot, ça a servi, mais après, on est passé en français. Et ils étaient très enchantés de connaître la France. Ils étaient très axés sur le compagnie de théâtre, parce qu'il paraît que c'est un groupe assez soudé, oui. où il y a un esprit d'équipe.
Ils vivent beaucoup sur place, ensemble, voilà. dans des roulottes encore.
Oui, donc toutes leurs expériences étaient axées sur cette vécu-là. Et comme c'était très, très bien passé, du coup, ils avaient une image de la France qui était très, très positive.
Comme quoi, il y en a encore. Voilà, pas désespéré. On va entendre donc la famille Pantirro. Thank you. Voilà, c'était donc la famille Pontirou, la fanfare Pontirou, presque, c'est ça.
Ben, presque, c'était au mariage. En fait, parce que le fanfare, il y avait des musiciens qui n'habitaient pas à Zetchiprajin, c'est le nom du village. Et donc, on a pu avoir un petit comité, donc ils étaient trois à jouer pour nous. Et ils nous ont invités à venir à un mariage ce soir-là. Pour écouter, donc c'était un trompettiste, un saxophoniste et quelqu'un sur le synthé.
D'accord. Ouais. Non, mais alors, on parlait en antenne justement de ces musiciens comme eux qui ont eu un contrat bien rémunéré, énorme pour le niveau de vie en Roumanie, j'imagine, avec Bartabas, avec donc cette troupe. Et en fait, c'est quand même assez rare ce genre de choses. C'est quand même des gens qui arrivent à tourner un peu en Roumanie.
Oui, mais bon, ce qu'on a compris, c'est que jusqu'à maintenant, en ce moment-là, c'était plutôt les mariages, parce qu'en Roumanie, dès que les gens ils se marient, ils ont un peu les moyens. C'est surtout les gitans qui contractent pour venir faire la musique, parce que c'est quand même les musiciens le plus peut-être renommés ou avec plus d'expérience. Mais sinon, non, ils n'avaient pas des gros contrats. Ils cherchaient un peu les festivals de fanfare, un peu dans la région ou dans d'autres pays aux alentours. Mais bon, on avait l'impression que c'était un peu en sommeil actuellement. Mmh.
Bah, on peut dire à tous les programmateurs en France, parce qu'il y a des festivals de fanfare en France, il me semble bien, hein,
oui.
D'aller voir votre blog. Hein. C'est peut-être, ça va devenir une mine, en fait. Vous allez pouvoir le vendre très cher, l'accès à votre blog. Parce que tous les programmateurs vont aller sur votre blog, c'est ça. Et non, mais franchement, hein, y a peut-être de quoi, justement, comme ça, c'est une manière de rendre aussi service aux musiciens que vous avez rencontrés.
Exactement.
Oui, tout à fait. Pour nous, c'était une manière un petit peu de les mettre à l'honneur, même si on n'a pas la prétention de dire qu'il y a des millions de gens qui visitent notre blog non plus. Mais en tout cas, même si ce sont quelques personnes, c'est déjà ça pour nous. Et pour nous, c'était important de leur rendre un peu cet hommage-là aussi, que de leur faire cette minuscule promotion. Et je voudrais dire d'ailleurs que la fanfare de la famille Pontirou s'appelle la fanfare Zetchiprajin, donc on peut trouver beaucoup de choses sur internet, on peut taper Zetchiprajin, donc ça s'écrit Z-E-C-E, plus loin P-R-A-G-I-N, J-I-N, pardon. Donc on trouve des vidéos de la fanfare avec la plupart des membres du groupe sont composés de la famille Pontirou, donc ce sont tous des virtuoses du saxophone ou de la trompette ou d'autres instruments qu'on trouve typiquement dans les fanfares.
Oui, c'est une fanfare agile, ça joue vite.
Ça joue très vite, voilà. Là, comme vous avez pu entendre sur le morceau, là c'était Didik Pantirou, donc l'aîné, qui jouait, et ça joue très 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 vite.
On a l'impression qu'il y a plein de chevaux derrière
oui,
lui.
Voilà, il a combien de doigts, combien de mains, enfin je ne sais pas, c'est terrible, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous avez pu recueillir comme son, c'est qu'on va le voir là maintenant, on va rester en Roumanie, mais alors en changeant de genre de musique, mais alors de manière radicale. Vous n'aviez aucun a priori en partant sur le genre de musique que vous alliez trouver. Parce qu'en même temps, ce qu'on vient d'entendre là, la fanfare, c'est quelque chose, c'est un son qui ne nous étonne pas venant de l'Est. Mais par contre, dans votre blog et dans tous les gens que vous avez rencontrés, il y a des choses qui nous étonnent beaucoup plus.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que des a priori, on en a toujours un peu, mais on a essayé de s'en débarrasser le plus possible. Et l'idée du projet, à la base, c'était quand même de... Oui, ça, j'ai oublié de le dire en début d'émission. C'était quand même de montrer la diversité musicale des pays de l'Est et donc de pouvoir l'exprimer à travers un CD. Donc, qui serait un peu une synthèse du meilleur de tous nos enregistrements effectués pendant ces 4 mois. Et voilà, donc vraiment d'exprimer la plus grande palette possible, pas forcément les meilleurs morceaux, mais en tout cas les plus divers.
Alors, exemple de diversité, on va écouter SJ Congo, c'est ça je ne sais pas alors comment ça se prononce, c'est comme ça
SJ Congo, ouais, c'est voilà. Son nom d'artiste.
Voilà, donc un petit extrait là tout de suite maintenant. Thank you. SJ Congo, un Roumain d'ailleurs, mais comment vous l'avez trouvé? Parce qu'on n'entend pas ça dans la rue, ça, je pense pas.
Non. Donc, bah, en fait, on était à Bucarest, donc la capitale roumaine, et on se baladait dans la ville, on était en recherche de musique, et puis on était un peu désespérés, on avait marché toute la journée, puis Bucarest, c'est quand même très grand, hein, c'est une capitale assez étendue, avec beaucoup de circulation, un peu bruyante, un peu stressante, donc on était très fatigués, et puis on était un peu découragés, prêts à rentrer chez nous, et puis tout d'un coup, on croise deux jeunes avec un look un peu tatoué, percé, etc., donc je me dis, tiens, c'est peut-être des musiciens. Donc on leur demande s'ils font de la musique, ils nous demandent pourquoi, donc on leur explique un peu notre projet, notre démarche, rapidement, en quelques minutes. Et eux, en fait, sont musiciens, mais plus électroniques, mais compositeurs, et bon, ils pouvaient pas nous montrer ce qu'ils faisaient dans l'immédiat. Par contre, ils nous disent, bah écoute, nous, on a un ami qui habite pas loin d'ici, lui, c'est un grand musicien de musique électronique, compositeur, etc., et si tu veux, on l'appelle et puis on voit, quoi. Donc, bah, ok, pourquoi pas. Donc, nos deux compères appellent Vlad. Et Vlad dit, bah, ok, bah, venez donc tout de suite. Donc, les deux compères qu'on a trouvés dans la rue nous amènent jusqu'à Vlad. Et c'est comme ça que la rencontre a commencé. Très simplement, finalement.
Ouais.
Il suffit de demander, parfois.
Bah oui, bah voilà. Et vous me disiez aussi, en antenne, parce qu'on se dit plein de trucs en antenne, hein, que chez ce fameux Vlad, c'était un vrai studio d'enregistrement, ouais. Un home studio.
En fait, je crois qu'il suffisait de mettre le pied chez lui pour se rendre compte à quel point cet homme est complètement dédié entièrement à sa musique, un véritable passionné. Puisque son studio, enfin son appartement était composé de deux pièces et il y en avait une qui était exclusivement dédiée à la musique, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un objet, un livre, rien qui ne concernait pas la musique. Et en fait, c'était oui, un véritable studio, puisqu'il y avait, j'ai compté environ 25 machines entre sampleurs, synthétiseurs, ordinateurs et autres, compresseurs, multi-effets, etc. Il y avait environ 25 machines disposées en demi-cercle, très bien disposées, de manière très professionnelle. Avec je ne sais combien d'écrans, des enceintes de monitoring, enfin très très professionnel, hein, du matos.
Ça veut dire qu'il gagne sa vie avec sa musique quand même, parce que...
Alors il gagne sa vie, oui, c'est très relatif. Hein,
c'est-à-dire que ça coûte très cher, ce matériel.
Ça coûte très cher, oui, mais comme il nous disait, le moindre dollar, enfin le moindre, je ne me rappelle plus, la monnaie roumaine...
L'EV, ou je ne sais pas quoi...
Enfin bref, le moindre sou partait dans l'investissement dans ces machines, hein. Donc enfin il nous disait, moi je pars jamais en vacances comme vous faites, moi je pars pas en vacances, j'achète pas de CD, j'achète pas de livres. Effectivement, dans la maison il y avait rien, hein. Pas un CD, pas un livre, il y avait rien. Il y avait que ces machines,
ouais.
Et une cuisine, et voilà, enfin le strict minimum vital, et sinon juste les machines.
D'accord. Étonnant. Mais alors justement, moi j'avais une image des pays de l'Est, comme ça, où il y avait justement beaucoup de livres partout, beaucoup de musique, beaucoup de choses liées à la culture, enfin du temps où c'était encore l'Europe communiste, où il y avait quand même beaucoup, beaucoup de livres partout dans les maisons où vous êtes rentrés, il y avait beaucoup de livres, non?
J'ai pas le souvenir.
Non, pas forcément. Parce que par exemple, les deux exemples en Roumanie, chez les Pantirous... ils n'avaient pas, d'ailleurs, ils avaient un très beau livre sur, peut-être c'était un anthropologue, oui, qui avait écrit sur les gitans en Roumanie, mm-hmm, qui était très très intéressant, mais bon, le livre, il les a été dédicacé, mais ils ont un autre rapport visiblement avec les livres, parce que nous, on était très intéressés, ils nous ont montré, donc on avait lu, etc., et à la fin de notre séjour chez eux, ils voulaient nous le donner. Or, c'est un livre qui a été dédicacé, ouais, à eux. Donc, c'est un autre rapport avec l'écriture.
Les Roms, les Gitans, c'est une culture orale, de toute, voilà, façon. Oui. Tout,
ouais. Et notre autre copain, Vlad, il n'était pas passionné par le livre, visiblement.
Oui, non, lui, il n'avait pas tout, parce qu'il mettait tout dans son matos. Bon, oui. Bah, voilà, quoi. Donc,
ouais.
Non, non, mais non, c'est vrai que je n'ai pas le souvenir d'être rentré chez des gens où il y avait beaucoup de livres. Non,
moi, je dirais plutôt musique, parce qu'en Bucarest aussi, on avait rencontré un festival qui se passait tous les ans, de musique classique. Et avec et donc on avait rencontré un Français aussi qui nous a parlé de ça, qu'en Bucarest il y a beaucoup de concerts musique classique et autres qui sont à des prix très abordables. Donc cet accès à la culture que peut-être des fois à Paris on peut trouver que pour certains était contrairement à Roumanie plus accessible au grand nombre. Ouais. Et je pense que ça date du temps de communisme, ça, par exemple.
Bon, il en reste un tout petit peu, alors. Bon, bah, on va dans un pays... On change de rive, presque, puisqu'on va aller en Turquie, maintenant. On écoute et on en parle après.
D'accord. Oui.
Sultanım şu dünyaya dolu geldim dolu benim. Bir sultanım şu dünyaya dolu geldim dolu benim. Bilmeyenler bilsin beni, ben Ali'yim Ali benim. Bilmeyenler bilsin beni, ben Ali'yim Ali benim. Bilmeyene söylüyorum, ben Ali'yi seviyorum. Bilmeyenler bilsin beni, ben Ali'yi mali beni. Coşma deli gönül coşma, coşup da gazandan taşma. Coşma deli gönül coşma, coşup da gazandan taşma. 366 çeşme, her çeşmenin suyu benim. 366 çeşme, her çeşmenin gölü benim. Bilmeyene söylüyorum, ben Ali'yim Ali benim. Bilmeyenler bilsin beni, ben Ali'yim Ali benim. Bilmeyene söylüyorum, ben Ali'yi seviyorum. Bilmeyenler bilsin beni, ben Ali'yim Ali benim.
Ali Bali, Ali Bali, Turquie, c'était quand, c'était où?
Ouh, alors là, quand, je ne sais plus exactement.
C'était durant votre voyage.
Oui, donc c'était une très belle rencontre aussi. C'était à une ville qui s'appelle Kırklareli. C'est une des premières villes, enfin c'est la première ville même où nous sommes allés en Turquie. Donc c'est pas loin de la frontière bulgare. Donc c'était une très belle rencontre puisque nous étions en train de marcher dans la rue et puis tout d'un coup quelqu'un nous aborde avec un accent très fortement belge et nous dit « Ah mais vous parlez français, mais venez donc, on va discuter autour d'un thé, etc. » Donc c'était une turco-belge qui vivait là-bas, qui avait une petite échoppe, un petit commerce de miel, de matériel pour faire du miel, etc. Et qui nous a abordé comme ça, et puis de fil en aiguille, il se trouvait que cette personne prenait des cours de saz, donc l'instrument qu'on vient d'entendre, c'est un saz, c'est un instrument typiquement turc. Cette personne qui s'appelle Alié, qui nous écoute peut-être d'ailleurs à ce moment même, si c'est le cas, on lui fait un gros bisou et une spéciale dédicace. Cette personne qui s'appelle Alié prenait des cours de saz et très naturellement a appelé son professeur pour nous a invité à manger chez elle. Donc c'était un repas assez fastueux avec force raki et le raki, donc c'est l'alcool à l'anis local.
Mais vous vous souvenez
local.
De tout encore, donc ça va.
Oui,
vous n'avez pas
abusé. Donc une belle soirée dans les vignes, puisque cette femme avait commencé à planter des vignes. Et donc Ali Bali, le professeur, est venu avec son saz et nous a gratifié d'un petit concert privé chez Allier, qui a duré, je ne sais pas, peut-être une heure. Il nous a joué pas mal de morceaux, donc on a tout enregistré. Donc là, c'est juste un petit extrait. Voilà, c'est de la musique, si je me souviens bien, c'est de la musique sacrée à Lévi qu'on a entendu.
Alors, on ne pourra pas, évidemment, on avait prévu même d'entendre autre chose, on ne pourra pas tout entendre. Là, il y avait un morceau que vous avez enregistré en Croatie, mais qu'on va retrouver sur le... Vous nous faites de dire un mot, mais on va le retrouver simplement sur le blog. Il y a évidemment... Il y a combien de morceaux de musique sur le blog? Je ne sais pas si vous avez compté, mais c'est hallucinant.
Oui, non, il y a une 17, je crois, enregistrements sonores. Il y a une quinzaine de vidéos, et puis beaucoup de photos, évidemment. Et il y a 130 articles en tout.
Voilà, du texte, beaucoup de texte. Ouais, vous avez écrit tout au long du voyage... Ouais. À la fois en anglais et en français, puisque Ariette est plutôt anglophone, quoique parlant très très bien français. Et donc, Olivier était lui pour le français, donc on peut vraiment, ce blog est accessible vraiment à tous. Et donc, je conseille à chacun d'y aller pour trouver de la musique, des anecdotes, pour voyager un peu par procuration. Mais alors, comment vous allez faire pour choisir quand vous allez faire votre CD? Parce qu'un CD, ça fait 64 minutes, hein, maxi.
Ça va être dur. Il va falloir tout réécouter, puisqu'on a plus de 200 morceaux, donc il va falloir tout réécouter et puis faire une sélection assez drastique. Et sur cette sélection, donc travailler un peu le mixage sonore. Donc il y aura peut-être un double CD, on verra, mais on pense faire un CD entre 20 et 30 morceaux.
D'accord. On va parler un peu de votre vie quotidienne maintenant sur place, parce que bon, quand même, c'était pas rien que de voyager en camion aménagé. Puis je voudrais qu'on entende tout de suite le son de Bubule, parce que c'est presque le son qu'en fait vous avez, même si vous avez écouté beaucoup de musique, c'est peut-être le son que vous avez le plus écouté. Oui. Un petit coup de Bubule. Voilà, Bubule, c'est le surnom que vous avez donné à votre camion. Vous êtes mignons tous les deux.
Voilà. C'était notre bulle à nous.
Voilà, votre petite bulle.
On est quand même passé de 60 mètres carrés à Paris à 2 mètres carrés. 3 mètres carrés dans Bubule. Donc, effectivement, c'était un peu serré. Mais on a bien retrouvé le repère au bout de peut-être... Ça nous a pris peut-être 2-3 semaines pour s'habituer à cet espace. Et c'était aussi un espace que dès qu'on commençait à sentir un peu que il manquait d'espace, on allait dans des petits hôtels. On n'est pas resté 4 mois à dormir dans ce camion. Donc il y a ça. Mais c'est clair que ça change énormément de toute autre vie qu'on peut avoir dans un appartement normal. Dans le sens qu'il faut tout organiser, tout ranger, tout le temps.
Oui, ça j'imagine. J'imagine pas, c'est
terrible. On ne peut pas laisser traîner. Donc, on se lève le matin et la première chose qu'on fait, c'est ranger le lit et tout ce qui va avec pour pouvoir prendre le petit-déj.
Oui, ça n'a pas le choix. c'est réglé.
Et il faut faire la vaisselle tout de suite parce qu'on avait... bien pris les quantités de couverts qu'il fallait, etc. Donc, si on ne fait pas la vaisselle après le petit-déj, on ne peut pas déjeuner, etc. Donc, il y a tout ça qui va avec. En termes de... On ne cherchait pas de camping sécurisé, etc. pour nous garer. Donc, on se garait un peu là où ça avait l'air calme, là où des fois il y avait de l'eau. Ou pas très loin de la route, ou pas proche de la route, je veux dire, pour ne pas se trouver dans des problèmes peut-être avec circulation. Donc, bon, à un moment donné, au fur et à mesure, on était habitués à voir les petits coins qui allaient bien, où on savait qu'on ne se serait pas dérangé le soir et qu'on dormait bien. Donc, en fait, comme on ne prenait pas des hôtels très chers, souvent, on dormait mieux dans le camion que dans l'hôtel pas cher qu'on a réservé.
Ouais. Et vous, vous êtes fait quelques frayeurs quand même. Je sais pas, vous avez eu des petites aventures avec le fameux Bubule. Alors moi, je l'ai vu en Keepart, le camion, il était blanc ou enfin crème ou enfin quelque chose comme ça. Ouais. Quoi. Je crois qu'il est revenu bleu.
Oui, exactement. Bon, ils nous disent entre la couleur des polices et l'EDF, entre les deux, c'est un bleu entre les deux. Donc, on a eu des petites interventions des garagistes des fois, mais aucun problème majeur.
Mmh. Et concernant la entre guillemets sécurité, est-ce que vous avez eu des soucis parfois le soir? Est-ce que vous êtes fait déloger de certains endroits
ou... Non, une fois, on a eu, c'était à Prague. C'était au début de notre voyage et on a décidé de se mettre dans un parc pas très loin de du centre-ville. Donc, c'était vraiment pas l'endroit de s'y mettre. Donc là, on a dû payer une amende et aussi partir à 2h du matin. Mais sinon, on a eu quelques visites les matins des policiers, mais c'était plus pour savoir qu'est-ce qu'on faisait là. Et on négociait toujours le temps en disant, ben, on part dans une demi-heure, on part dans 20 minutes, etc. Mais jamais des amendes. C'était plus pour savoir qu'est-ce qu'on fait là. Et des fois, ils nous ont dit, ben, si vous vous mettez à tel endroit, c'est mieux, etc. Mais on n'a pas eu vraiment des problèmes pendant la nuit qui nous faisaient partir... en plein de sommeil.
Bon, bah alors tout va bien.
Oui, oui, tout va bien.
Tout va bien.
Ouais,
prêt à repartir en camion? Qu'est-ce qui est devenu ce camion?
Oui. Oh, bah, il est pas loin.
Il est pas loin.
Bon. Il sommeille quelque part.
D'accord.
Non, il est prêt à repartir, mais pas cette année parce que, bon, bah, après un long voyage comme ça, on a envie de se poser un petit peu, mais oui, je pense qu'on va certainement repartir un jour avec. Parce qu'il nous manque un peu, en fait, maintenant qu'on a vécu. En son sein pendant 4 mois.
Bon, si vous êtes sage, on réécoutera le son avant la fin de l'émission. Mais seulement si vous êtes sage.
Et c'était le son du dernier jour du voyage,
voilà,
le 14 décembre.
Le dernier démarrage de Bibule, voilà, qui est sur votre site, hein, bien sûr. Il y a aussi un très beau son aussi dans le genre son qui n'est pas de la musique. Il y a la musique de la mer. Vous avez je ne sais pas où c'était. Mais...
La mer Noire.
La mer Noire.
Bulgarie.
Voilà, en Bulgarie. C'était magnifique.
La musique de la mer Noire.
Voilà. Bon, alors, ça c'est pour le camion, mais enfin bon, l'idée c'était pas quand même de rester dans cette petite bulle, fallait bien en sortir. Quelles sont les rencontres, même de pas forcément de musiciens, ou de humaines tout simplement, qui vous ont particulièrement marqué?
Il y en a eu tellement, ce serait très long, mais je parlais d'Allier tout à l'heure, c'était une de nos rencontres assez fortes. La famille Pantirou, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous a invités chez eux pendant 3 jours, à nous faire des super bons petits plats. C'est l'hospitalité avec un grand H, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare de nos jours. Et d'ailleurs, pour revenir sur la famille Pantirou, ce sont des gens qui ne nous connaissaient ni d'Ève ni d'Adam et qui n'avaient même pas compris, en fait, ce qu'on faisait là avant de nous proposer de rester chez eux. Puisque, en fait, le petit mot qu'on avait, le petit sésame qu'on avait, ils n'avaient pas compris tout de suite de qui il s'agissait.
Mmh. Oui, donc c'était même pas...
Donc, en fait,
c'était simplement un réflexe d'accueil.
Voilà, et puis on a été accueillis de la même manière dans d'autres familles. Alors, je dois dire que quand même les deux familles où on a été le mieux accueillis, c'était des familles de gitans. C'était en Roumanie et en Macédoine. Mmh. Et on a eu également un très, très bel accueil de la part d'un couple qui s'appelle Bané et Mika. Donc, Bané est bassiste et c'est un des leaders du groupe Naked qui est sur notre blog et qui est un très bon groupe. Qui fait un peu du folk un petit peu transformé en version jazz, rock, c'est assez intéressant.
Ouais.
Donc ça, c'est parmi trois de nos plus belles rencontres.
Et ça, c'était en Serbie.
Voilà, il y en a eu tellement d'autres. On a eu aussi ce couple de jeunes, donc rappeurs, Ivan et Ivan, qui sont en Bulgarie, dans une petite ville qui s'appelle Burgas, une petite ville balnéaire, et qui ont ouvert une guest house, donc une sorte d'auberge de jeunesse, si on veut, et qui nous ont accueillis chez eux les bras grands ouverts, et non seulement nous ont accueillis gratuitement dans leur guest house, mais nous ont fait un petit concert de rap privé aussi qu'on a enregistré.
Ouais, on va écouter Ivan et Ivan, donc juste un petit extrait de ces deux rappeurs.
Рапа мачка като влак.
И на всеки стъпа някак.
Тука трябва да е ясно.
Трябва място е тясно.
За подземната ми рима.
Направете път да мина.
На подземните канали.
Двама контрадмирали.
Ние сме двама генерали.
На подземните канали.
Екстремали с микрофони.
Става думите, пък патрони.
Става ли тама оръжие?
Ей, но нямам досие в полицейското окръжие.
Вече съм започнал.
Ако ще ме прекъсне?
Темата за куките не мога да пропусна. А по нея аз ще кажа, става дума за грамажа, за циклажа, породен от репортажа, предлежаваш марихуаната с помпажа.
Тотен, а ти гледаш към небето, а ритъма се чува някъде долу измазето. Не обичам да се хваля за това, пък не го правя, но пък викат ми газара.
И това му се отдава, йо.
Римата пак е с мен, кой е с мен, кой е против мен, кой е чета ден зелен. И за моите, и за мен се питам,
дали ще има папироси?
Някой ли ме бута, някой ли ме носи? Питай кой с баса, степи махалата.
Нокаут с масури в ръката.
Е, на хъпата туто хапа.
Иначе с дон стапа.
Удърти ме афем, тъпта трябва е с мен. Кръвта ми тече,
коската за кафе.
Когато видя микрофона, адреналина ми започва да расте.
Много, много, много нависоко.
Скупа дуба и се гмуркам, много надълбоко.
Хип-хоп, хип-хоп, викали му хип-хоп, викали му
хип.
Викали му хип-хоп.
Супермен.
Едно, две, едно, две. С микрофона в ръце чупя твоето клише, като череп на прасе. Парен чук, аз отново съм тук. Напука този целия ябокук. Продължавам с моя андерзвук. Аз и моята банда. Това е олдскул пропаганда. Свободен стил, нокаут Бургас. Викай ми гайдара. През уредбата у вас. Аз влизам без да питам. На газа ще разчитам да ви сритам. А после се умитам.
Et voilà, quand on vous disait que c'était très éclectique ce blog et ce voyage, je rappelle pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours, quoi, on est avec Olivier et Ariette qui sont là physiquement devant moi en plateau. Pour vous, ça ne change pas grand-chose, mais pour moi, si, quand même, je ne les ai pas au téléphone et ils sont à Paris. Et ils nous parlent donc de leur voyage en route vers l'Est à la recherche de musique qu'ils ont ramené, effectivement, et que vous pouvez retrouver sur leur blog en route vers l'Est. Donc, http://enrouteverslest.over-blog.com. Voilà, ça c'était donc deux jeunes rappeurs qui vous ont gentiment accueillis, assez jeunes, une trentaine d'années, vous me disiez, ils ont déjà leur auberge de jeunesse, enfin voilà, ils se prennent au moins ces jeunes.
Voilà, ils avaient créé leur auberge de jeunesse donc un an auparavant, et là on était un petit peu hors saison, mais l'auberge était encore ouverte, et ils nous ont accueillis chez eux très... Très simplement, comme toujours, dans ces pays-là. Et on voulait faire un petit laïus justement sur cette question-là, parce que nous, on a été touchés par cet accueil. Alors, c'est vrai qu'on peut retrouver ça en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. On peut retrouver aussi ce type d'accueil très chaleureux, et souvent de la part des gens les plus pauvres. D'ailleurs, c'est souvent les plus pauvres qui accueillent le mieux. Enfin, moi, c'est ma propre expérience qui me fait dire ça. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent.
Oui, pas que là-bas, d'ailleurs. Hein, partout.
Voilà. Oui. Et donc, moi, personnellement, en tout cas, ça m'a plus surpris en Europe de l'Est. Alors peut-être que justement j'avais des a priori parce que c'est l'Europe et que je m'attends à un accueil un peu plus froid. Alors je ne dis pas non plus que tout le monde avait été extrêmement chaleureux envers nous, hein. C'est pas non plus ça, mais voilà, enfin, cette manière dont on a été accueillis, peut-être que c'est le sésame de la musique aussi, je ne sais pas, probablement.
Non, puis vous n'avez pas l'air antipathique tous les deux.
Bien sûr.
Non, mais... Vous êtes charmants tous les deux.
Non, mais à Paris, cherche à l'accueil.
Oui, bon, alors, on lance un appel, ils ne savent pas où dormir ce soir, appelez la radio tout de suite, ils sont charmants, adoptez-les.
Non, mais en plus plusieurs générations, parce que en Macédoine et en Roumanie, d'accord, c'était une famille et des personnes un petit peu plus âgées, etc. Mais dans le cas de la Bulgarie avec Ivan, les deux Ivan, et en Serbie, c'est des personnes autour de 30 ans, et que pour eux, la question, elle se posait pas où dormir, parce que nous, on n'avait pas de problème avec notre chère bubule, mais pour eux, c'était hors de question qu'on passait du temps ensemble à partager la musique et autre chose, et qu'après, on se séparait le soir, et nous, on dormait de notre côté, eux, chez eux. Donc, c'était un accueil aussi qui reste toujours. Parce que s'il y a des jeunes encore qui trouvent que c'est tout à fait normal, bon, ça donne espoir que c'est ancré dans la culture.
Mmh. Donc c'est bien, oui, parce que ouais. Moi, j'avais connu un peu ça il y a beaucoup d'années. Je suis très contente que ce soit toujours un peu comme ça. On dit un mot du groupe Catalena qu'on va entendre pour terminer l'émission.
D'accord. Alors Catalena...
Ou d'autres choses, hein. Allez, on a encore 2 minutes.
Donc Catalina, c'était un de nos tout derniers enregistrements. Donc, c'est un groupe qui est en Slovénie, à Ljubljana, la capitale, ouais. Et qui est un groupe qui reprend également des mélodies folk, mais pas forcément les mélodies folk les plus connues, et justement qui va rechercher un peu des mélodies un peu moins populaires et qui va les transformer dans une symbiose un peu rock, un peu jazz, un peu expérimental parfois, un peu vocalisé. Donc il y a des choses très très intéressantes. Donc c'est un groupe quand même maintenant très professionnel, hein, qui a déjà fait un certain nombre de CD, qui a un site qui est très beau, qui est en anglais également. Donc Catalina, vous trouvez facilement avec un K. Et donc voilà.
Et on en écoute juste quelques notes, juste pour donner envie aux gens d'aller entendre de manière beaucoup plus complète sur votre site. Donc il est 9h effectivement sur Aligre FM 93.1, mais je vais quand même dire au revoir à mes invités si Anthony veut bien. Et on laissera la parole à Julie pour les informations juste après. Dernier mot, Olivier et Ariette, on a oublié de dire qu'on peut demander le CD que vous allez produire. Il suffit de vous envoyer un petit mot sur le blog, dont j'ai rappelé l'adresse. L'adresse sera sur le site de Liberté sur Parole, et vous tapez En route vers l'Est, vous tombez directement dessus. On envoie un petit mot et puis on reçoit gratuitement le CD, puisque voilà. Vous n'êtes pas là pour, vous n'avez pas cherché à faire de l'argent en faisant ce voyage, non. Et vous voulez partager. Et voilà. Voilà.
C'est un projet interculturel entièrement gratuit. Donc les musiciens nous donnaient entre guillemets leur musique gratuitement. Donc en contrepartie, on restitue leur musique également gratuitement.
Voilà. Et vous ne faites même pas payer votre travail, ce qui est vraiment c'est quand même du bénévolat. Voilà, c'est un don que vous nous faites. Et on vous en remercie.
Merci beaucoup.
Et on vous dit à très bientôt, parce que bon, c'est pas parce que vous n'avez plus voyagé pendant un petit moment là que vous n'avez pas le droit de revenir nous voir. Hein.
Merci.
À très bientôt.